Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Voilà donc pour ce récit tiré des mémoires, des confessions de l'autobiographie de Nourrieff, qui est publié à nouveau par les éditions Arthaud en collection poche, 2 ans après sa traduction. Et je suis avec celle qui a traduit cette autobiographie de Nourrieff, qui est par ailleurs une journaliste spécialisée en danse classique, Ariane Dollfus. J'ai tenu absolument à raconter l'enfance de Nourrieff, parce qu'il est important de savoir d'où il vient. C'est peut-être la clé de toute son histoire. Nourrieff, je l'ai raconté, Ariane a connu la misère la plus extrême, la faim, la privation, les loups tout de même qui manquent de dévorer sa maman. Moi je me dis que c'est peut-être de là que vient à la fois son individualisme et cette volonté incroyable qui lui a permis d'arriver là où il est arrivé, non ?
Ah oui, mais je trouve que ce récit est très touchant. Enfin, même personnellement, je connais évidemment ce texte, mais je trouve qu'on voit bien à quel point Nourrieff avait soif. Soif de vivre, soif de vivre sa passion, soif d'apprendre. Et on a soif que si on n'a pas eu d'eau. Et lui a vécu ça, ce manque permanent. Il a un souvenir atroce de son enfance. Et on voit bien que c'est dans la nudité qu'il va vouloir devenir quelqu'un.
On sent qu'il s'est construit en fait contre son père.
Ah mais absolument.
Et il a arrondi probablement pour l'autobiographie un peu les angles. Est-ce qu'il l'a revu son père d'ailleurs plus
tard ? Il n'a jamais revu son père. Il le détestait. Et d'ailleurs la biographie que j'ai écrite avant de traduire ce texte, j'avais voulu qu'il soit sous-titré L'insoumis, parce que il était insoumis à tout, insoumis de caractère, mais aussi il a toujours refusé de se soumettre à son père. Il y a une histoire d'ailleurs qu'on pourrait ajouter à votre récit, c'est que son père le battait régulièrement lorsque il apprenait qu'il était allé à son cours de danse. Et Nourrieff mentait, alors avec une raison vraiment bien trouvée, en disant qu'il allait faire les courses. Et à l'époque, il n'y avait rien dans les magasins, donc il y avait des queues. Donc le temps de trouver à manger dans un magasin, mais il avait le temps d'aller prendre un cours de danse.
Mais d'après vous, qu'est-ce qui suscite chez son père ce refus absolu qu'il aille au bout de sa vocation? Il est efféminé? Il n'est pas l'homme tel que le père l'est?
Je pense que à la limite, on peut comprendre cet homme qui n'a qu'un fils. Il a 3 filles. Bon, alors les filles, on les regarde pas trop, mais il a un fils et il veut que son fils s'élève socialement en parlant, et puis est une profession rassurante pour lui.
Alors tout petit, il a quand même un caractère à part. Il le dit lui-même, à l'école, il n'a pas d'amis. Sa seule confidente, c'est sa sœur.
Absolument. Et je pense que ce caractère-là, qui n'est absolument pas fait pour cohabiter avec le réalisme soviétique, le communisme, la vie dans le collectif, ça ne marche pas avec
lui.
Mais
d'où lui vient cet individualisme ?
Je pense que c'est sa nature profonde. Et je pense aussi, vous l'avez bien dit, cette promiscuité absolue qu'il avait dans son enfance. Vivre à 10 dans 9 mètres carrés, je pense qu'après, on ne supporte plus l'autre.
Ouais.
Et puis après, il y a son caractère qui a été un défaut au départ, mais une formidable qualité pour foncer.
Alors il le dit assez vite, dès son enfance, un ressentiment à l'égard du régime communiste, mais en vérité il est aussi un produit de ce régime, c'est-à-dire que si le communisme soviétique n'avait pas été ce qu'il a été, s'il n'avait pas entretenu des opéras, des orchestres dans les provinces les plus reculées, la Bachkirie est la dernière province d'Union soviétique, et pourtant il y a un opéra et c'est grâce à cet opéra qu'il met un pied dans son rêve.
Exactement, et il disait toujours qu'il était redevable à l'Union soviétique de lui avoir permis d'étudier avec des bourses, et de pouvoir devenir danseur, alors qu'il n'en avait pas les moyens au départ.
Alors il va chez les pionniers, mais il refuse les Komsomols. C'est-à-dire
que
il est adolescent, le côté aller faire des jeux, des camps, c'est du scoutisme communisme, les Komsomols.
Voilà, et puis surtout, mentir. Ça, il y a un truc que Nourrieff ne sait pas faire. Il ne sait pas mentir, il dit la vérité, alors des vérités qui ne sont pas toujours bonnes à dire, mais quand on est au Komsomols, on doit dire oui en permanence à la pensée centralisée. Et lui, s'il pense non, eh ben il va dire non.
Ouais.
Voilà, c'est ça.
Ce qui est très moderne, d'une certaine manière. Son entrée au ballet Kirov de Leningrad est très intéressante parce qu'il y a une ambivalence de ses professeurs, dès le début. Il l'aime et il le déteste, presque dès les premières minutes.
Absolument, mais parce que je pense, d'abord, on pouvait douter effectivement de ses capacités quand il avait 17 ans, mais surtout, on pouvait l'aimer parce qu'il était extrêmement travailleur. Il restait enfermé tout seul dans un studio jusqu'à 23 heures s'il le fallait, en virant tout le monde. Alors voilà, l'ambivalence, elle est là. C'est qu'il était odieux parce qu'il ne pensait qu'à sa seule réussite. C'était pas par carriérisme, c'était par volonté de perfection. Voilà.
Parlons de Pouchkine, qui est donc son maître, dont il dit dans son autobiographie qu'il est comme son deuxième père, et on sent bien en vérité que c'est son premier père, c'est le seul à qui il reconnaît une paternité. Lui aussi, au départ, il est ambigu, il le prend, ce Nouraïev dont Chalkov lui dit « c'est un ego, tu verras, il n'y a rien à en tirer ». Mais en même temps, il voit bien qu'il a du talent, et il se dit que peut-être ça pourra le faire reluire un peu lui-même, non ?
Ah mais je crois qu'en fait, il ne le regarde pas parce qu'il ne l'intéresse pas, mais au contraire, justement, parce qu'il comprend que c'est en affichant un pseudo désintérêt pour lui que Nouraïev va faire encore mieux pour le séduire. C'est
il
très malin,
ça.
En fait. Hein.
Oui. C'était un séducteur, donc il le laisse le séduire.
Voilà, exactement.
D'ailleurs, comment Pouchkine a-t-il vécu son passage à l'Ouest, puisqu'on parle de Pouchkine ?
Très mal. Très très mal.
D'ailleurs, il pense à lui, hein, à l'aéroport
oui,
de Bourget.
Oui, absolument, il le dit, hein, il pense à ses parents, il pense à sa copine Tamara, avec qui il prenait beaucoup de photos et qui s'entendait très bien, et puis il pense à son professeur. Hein, oui.
Vous venez de parler de Tamara, j'en ai pas parlé dans mon récit, ça c'est son amour à Leningrad.
On ne sait pas hein, si s'aimait-il ou non, ça. Elle-même, elle n'en parle pas hein, quand elle
bon, disons la vérité, Nouraïev était homosexuel. Quand on lit sa biographie, il n'en dit pas un mot,
mais à l'époque.
Il fait croire qu'il aime les femmes. Objectivement, il fait croire qu'il aime les femmes.
Mais ce qu'il faisait, hein, y en a une dont il parle à mi-mot, qui est une danseuse cubaine,
oui.
Avec qui il a effectivement eu une histoire d'amour, alors qu'il ne s'est pas concrétisé parce qu'elle ne voulait surtout pas. Elle n'avait qu'une seule peur, c'était avoir un enfant. Ouais. Elle m'a raconté toute cette histoire-là. Voilà, à l'époque, c'était absolument impossible dans les années 50. Et ils ont eu une histoire d'amour.
Platonique,
extraordinaire. Et elle était géniale, cette fille. Elle était différente, elle était cubaine, elle était drôle, elle était. Et il l'a, quand elle est repartie à Cuba, il l'a suivie en train jusqu'à Moscou. Il a raté des répétitions pour la suivre et lui déclarer sa flamme et lui dire qu'il voulait l'épouser. Et elle en avait aucune envie.
Donc
parce
il
que...
aimait les femmes, pas de chair, mais il les aimait.
Oui, mais je crois qu'il a eu des affaires, des love affairs
avec des femmes.
Ouais.
Alors concernant son passage à l'Ouest, évidemment le ballet savait qu'il était risqué d'envoyer un esprit aussi indépendant en Europe en 1961, mais finalement il était incontournable.
Il était incontournable parce que c'est une Française qui est allée, ça il n'en parle pas à Nouraïev, parce qu'il y a beaucoup d'ellipses dans cette autobiographie, il y a des noms qu'il ne cite pas afin de les protéger. Cette autobiographie
elle sort en 65, c'est ça au
très en 62.
62, donc, très vite après.
Ah oui, un an après sa défection. Ça, c'était un coup d'édition extraordinaire à l'époque. Hein. Et donc c'est une Française qui était chargée de la tournée à Paris, qui a découvert absolument par hasard Nouraïev. Elle voit qu'il y a Don Quichotte qui se joue le soir même, et elle dit « Tiens, j'aimerais bien voir Don Quichotte », et le directeur du ballet lui dit « Non, c'est un ballet totalement poussiéreux, ça n'a aucun intérêt ». Elle y va quand même, et elle découvre Nouraïev, et elle dit « Je veux Nouraïev ».
Votre danseur étoile de 50 ans, vous le gardez, c'est lui que je veux.
Le danseur étoile de 50 ans, c'était le directeur de la compagnie en plus. C'est ça qui est incroyable. Et le directeur de la compagnie qui détestait Nouraïev comprend vite, et ça c'est assez malin de sa part, comprend vite l'intérêt qu'il a de faire venir la future superstar qui contribue au succès de la tournée.
Donc il fait défection à Paris. Ce qui est étonnant, c'est qu'il ne devient pas français. Il devient autrichien.
Non.
Qu'est-ce qui se passe là ?
Alors, j'ai appris il y a peu de temps par un de ses proches amis qu'il avait toujours rêvé d'être français. Mais la France ne lui a pas proposé, car la France a peur de l'Union soviétique. La France ne veut, de Gaulle ne veut pas avoir de problème avec Khrouchtchev et avec le régime soviétique. Et la France le délaisse pendant 5-6 ans. Il est persona non grata à l'Opéra de Paris. Il ne danse pas à Paris. Et c'est l'Angleterre qui comprend tout de suite l'intérêt. Eux s'en fichent royalement de déplaire à Moscou. Et le Royal Ballet de Londres l'invite. Et c'est là où il va...
C'est là qu'il va exploser. exploser.
Absolument.
C'est là qu'il va devenir une star mondiale. Et il aurait pu le devenir chez nous, en France.
Il aurait pu le devenir chez nous. Alors, on s'est rattrapé bien des années plus tard.
En 83, hein, c'est ça. C'est Jack Lang qui le fait venir.
C'est ça. C'est Jack Lang qui a eu cette idée géniale de proposer, sitôt Mitterrand élu président de la République, il lui propose de faire venir Nouraïev comme à la direction du ballet de l'Opéra de Paris. Donc, on s'est un peu...
On s'est rattrapé, quoi.
On s'est rattrapé, oui, tout à fait.
Est-ce qu'il a été un bon directeur de l'Opéra de Paris? Il y a débat là-dessus, parce que est-ce qu'on est un bon directeur quand on est à ce point individualiste, égocentrique, centré sur soi-même?
Alors, ça a été très dur, mais finalement, c'est ce caractère-là qu'il a su insuffler à ses danseurs. Alors, il fallait juste adhérer à la méthode. La méthode était peu courtoise, il parlait très mal aux danseurs, il pouvait être violent physiquement, ça, tous les danseurs le disent et le racontent facilement. Il était odieux, mais la danse n'est pas un monde de bisounours, comme on dit aujourd'hui, c'est un monde très dur, où on n'hésite pas à utiliser un vocabulaire qui n'est pas forcément châtié. Et ceux qui ont admis ça, ceux qui ont adhéré à cette exigence absolue qu'il avait vis-à-vis de lui-même, eh bien, ils sont tous devenus de très très grands danseurs.
Il est mort en France, du sida, disons les choses, en 1993, et il est enterré en France.
Au très joli cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois, qu'il faut absolument visiter. Il est mort le 6 janvier 1993.
Mais ceux qui iront sur sa tombe seront surpris, sur un point dont je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant. Il n'était pas orthodoxe, il était musulman. Et donc, il n'y a pas de croix sur sa tombe.
Tout à fait, mais il y a un magnifique tapis volant. Ça, qu'il faut
sur sa tombe.
Sur sa tombe, un tapis de mosaïque coloré qui est tout à fait extraordinaire et à son image.
Merci, Ariane Dolfus, d'avoir d'abord contribué, enfin, des décennies plus tard, à la traduction de cette autobiographie de Nouraïev qui est absolument passionnante. Et merci d'être venu compléter mon récit dans cette émission.
Merci à vous.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.